qu'on a une culture, nous, française, de la punition.
Et on pense que c'est normal.
Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent.
Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps.
Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix.
Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent. »
Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient.
Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain.
Bienvenue sur le podcast Les Adultes de Demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèves, je suis entrepreneure et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèves, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. C'est autour de son piano que j'ai rencontré Joanne Koning, grande musicienne et auteure de l'ouvrage « Tous les enfants naissent musiciens ». J'ai cette même conviction que Joanne, apprendre la musique est comme apprendre une seconde langue. Chaque enfant en est capable. La musique offre aux enfants cet espace universel et sensoriel où l'on peut exprimer et ressentir des émotions, et ce, dès la grossesse. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à remettre en question dans l'apprentissage de la musique en France. Nous avons ainsi exploré avec Joanne les façons de cultiver ce lien que chaque enfant avec la musique a jusqu'à l'âge adulte. Bonjour Joanne.
Bonjour Stéphanie.
Donc tu es musicienne et tu as d'ailleurs eu la chance d'étudier à la grande Juilliard School de New York. Tu es aussi la fondatrice d'une école maternelle bilingue et d'une école de musique à Paris qui s'appelle la Koning School. Et j'ai d'ailleurs eu la chance il y a quelques jours de tester un cours de musique avec mon fils de 1 an que j'ai absolument adoré. Donc je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Et tu es aussi l'autrice du dernier ouvrage « Tous les enfants naissent musiciens ». Et ça me touche beaucoup. Alors selon toi, pourquoi la musique est essentielle dans nos vies et plus particulièrement pour le développement des enfants ?
Alors, vaste question, mais je crois que c'est ma question préférée. Pour répondre, j'ai juste envie de dire que si on regarde l'ensemble des sociétés, des cultures dans le monde, il y a dans chaque culture une pratique musicale importante pour les événements importants de la vie, les mariages, les enterrements, les révoltes, etc. Donc, clairement, la musique est quelque chose qui résonne en nous. Et on a besoin pour cela, pour s'exprimer les émotions fortes dans la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un pan de recherche depuis à peu près 40 ans maintenant qui démontre, maintenant qu'on peut regarder dans un cerveau, qui démontre concrètement ce qui se passe dans une pratique musicale. Et on se rend compte qu'il y a des liens entre le langage, évidemment, les émotions, le rythme et le rythme et mélodie sont également présents dans le langage. Donc, toutes ces choses-là font que si un enfant a la chance de pratiquer de la musique tôt dans la vie, l'ensemble de ses apprentissages vont être soutenus, inclus social.
Ah, c'est super intéressant. Et d'ailleurs, dans ton livre, tu parles plusieurs fois du lien entre les neurosciences et la musique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ?
En fait, depuis... les scientifiques regardent les pratiques musicales partout dans le monde depuis très longtemps. Et ils se posent beaucoup de questions, à savoir, est-ce qu'il y a des universels en musique ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on trouve dans chaque société ? Il y en a quelques-uns, mais c'est très technique à expliquer. Mais la différence, je dirais, aujourd'hui, c'est que depuis l'arrivée du IRM, le fait de pouvoir regarder dans le cerveau, les neuroscientifiques peuvent vraiment illustrer les liens concrets entre les centres du langage, entre les centres qui gèrent les mouvements. Et en fait, il y a une jolie anecdote par un très grand chercheur qui s'appelle Robert Zatori. Quand on lui pose la question, mais en fait, la musique active quelle partie du cerveau ? Et il répond, en fait, les parties qui se situent au-dessus de la nuque. Donc, pour ainsi dire, que c'est ça qui est fascinant avec la musique. Le langage est géré dans trois régions spécifiques du cerveau, tandis que la musique, ouf, partout. On le trouve partout, mais notamment dans les secteurs émotionnels. Et je dirais ça, c'est l'un des grands découvertes récents, c'est que l'émotion fait partie de la création de mémoire, surtout mémoire autobiographique. Donc évidemment, une émotion forte et positive va ancrer un enfant. Une émotion de terreur ou de grande crainte va également le marquer longtemps.
Et alors, tu dis que tous les enfants naissent musiciens. Est-ce que c'est vrai?
Pour moi, c'est vrai, parce que c'est au bout de presque 40 ans de fréquentation des enfants de tous âges, j'en ai rencontré très, très peu d'enfants qui semblaient peiner avec la musique. Et je dirais que depuis que j'ai fait toute la recherche pour le livre, je comprends aujourd'hui que dans le temps, on parlait de... le petit François qui ne tapait pas en rythme avec les autres, et on disait qu'il n'était pas musical. Et en fait, c'est loin d'être la vérité. Si le petit François ne peut pas taper en rythme avec les autres, c'est qu'il y a des procédures dans son cerveau qui ne fonctionnent pas correctement, et on peut l'aider. Mais le vrai amusia, donc le vrai incapacité de sentir, d'entendre une mélodie ou un rythme, c'est une personne sur 10 000. Et sur ces personnes-là, je les ai pas encore rencontrées.
Ouais. Pourtant, on entend souvent les enfants devenus grands, donc les adultes, dire « moi, j'ai pas du tout l'oreille musicale, si je chante comme une casserole, reconnaître les notes, c'est impossible ». Est-ce que, selon toi, tout ça est faux, ou est-ce que c'est des choses qu'on peut corriger en démarrant la musique dès le plus jeune âge ?
Tout à fait. En fait, j'aime bien la citation de Pablo Picasso, qui disait que les enfants naissent artistes et ils le désapprennent avec les années. Et j'ai envie de dire que c'est un tout petit peu la même chose avec les enfants. Et on a la preuve avec les cours qu'on donne pour les enfants de moins de 3 ans. Pour moi, l'idée d'avoir une bonne oreille, ça veut dire qu'on entend un son et on arrive à le situer. L'oreille absolue, vraiment absolue, est un peu rare. Moi, je ne l'ai pas, mais j'ai une excellente oreille. Quand j'entends une mélodie, je peux tout de suite aller au piano ou à ma flûte le jouer. Donc, pour moi, c'est ça que j'aimerais cultiver chez les jeunes enfants, parce que ça veut dire qu'il y a une compréhension naturelle et spontanée de la musique. Donc, cet enfant va pouvoir se joindre aux autres sans trop de peine. Et il ne dépendra pas d'une partition pour pouvoir jouer de la musique.
Si on revient justement à tout le travail que tu fais sur les très jeunes enfants, les bébés notamment, qu'est-ce que tu as découvert avec toutes ces années d'expérience vis-à-vis des bébés et de leur rapport avec la musique ?
En fait, je découvre encore les choses. Hier, il se trouve que j'avais une classe d'enfants de moins de 3 ans et je me suis rendu compte avec l'entraînement qu'on fait depuis le début de l'année scolaire, ils n'ont pas 3 ans, mais ils lisent des rythmes en les incarnant totalement, en dansant, en chantant, en tapant dans les mains. Et j'étais, j'avoue, un peu subjuguée. Donc, j'ai envie de dire que tout le monde apprend aux enfants les couleurs, le nom des couleurs et les chiffres, par exemple. Mais quand on parle du rouge, pour un enfant, c'est une abstraction totale, comme... Sol est une abstraction totale aussi. Mais si l'enfant est présenté plusieurs fois le sol comme étant sol, sol, lé, ou do, do, mi, no, au bout de 3 ou 4 répétitions, exactement comme pour le rouge, il va vous dire, ben, c'est un sol. Donc tout le monde semble penser que ce sont les enfants avec les super-pouvoirs. Non, je maintiens que... les enfants naissent musiciens, il suffit juste de le cultiver de la même manière qu'on cultive le langage. On n'oserait jamais ne pas parler à un enfant et les envoyer à un cours de langue une fois par semaine.
Ouais.
C'est la même chose.
C'est ce qui m'avait marqué quand on avait pour la première fois échangé ensemble, c'est que tu me disais que l'apprentissage de la musique s'apparente à l'apprentissage en fait d'une nouvelle langue.
Oui, en fait c'est une langue et d'ailleurs en fait on aime bien dire que notre école est trilingue, anglais, français, musique.
Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur les bébés? Alors moi en plus ça me concerne parce que mon enfant est encore au stade bébé, puisque moi il y a notamment quelque chose qui me marque sur les bébés, c'est autour du babillage, où en effet on a plus l'impression qu'ils chantent plutôt qu'ils parlent. Et tu dis notamment dans ton livre, le babillage du bébé est une expression plus musicale que verbale. Pourquoi?
Ah, tout à fait, parce qu'en fait... Et c'est intéressant parce que l'enfant, ses babillages sont très musicaux. C'est vraiment ah papa 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 tiens attends vous ah vous chez ta ta ta. Et si on écoute bien, on trouve à certains stades de leur développement des répétitions. Et en fait, ces répétitions vont plus tard devenir des vrais mots. Donc il y a dans ces babillages, il y a mélodie, il y a rythme. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, quand on parle aux enfants, en français, ça s'appelle du mamané, et c'est la même chose. On dit « Oh, qu'il est beau, qu'il est magnifique, ce petit bébé !» Et encore, la mélodie et le rythme sont accentués. Si on disait « Oh, qu'il est beau, le bébé », ben, le bébé, il va pas, ça ne l'intéresse pas. Donc, en fait, le cerveau du nouveau-né est un peu branché rythme et mélodie, et c'est plus facile pour lui de se concentrer. La mélodie, le rythme sert de béquille un peu pour l'acquisition du langage et surtout pour la mémoire. C'est pour ça que tout le monde se souvient des chansons de leur enfance, et le peu de chansons didactiques comme ABCDEFG reste très longtemps dans les mémoires.
Tout à fait. Ce qui me marque aussi sur les bébés, c'est leur capacité à danser en rythme.
Oui, alors c'est très intéressant parce qu'en fait, on a la première fois que j'ai vu ça avec l'optique de qu'est-ce que ça veut dire, c'était il y a 15 ans, au tout début de l'école de musique, tout début de l'école maternelle, et on avait un petit groupe de très jeunes enfants. Et c'était un peu d'expérimentation. Maintenant, c'est devenu vraiment une école, pleinement école, avec toutes les matières, etc. Mais je me souviens, je jouais un petit minuet de Bach. Il y avait une petite fille qui commençait à danser en pointant ses pieds comme si elle dansait une danse baroque. Et je me suis dit, c'est incroyable, elle est en train de chorégraphier ce qu'elle entend. Donc... la majeure partie des enfants font cela spontanément, et c'est vrai que dès qu'ils entendent une musique avec une pulsation évidente, ils commencent à bouger avec. Et il se trouve que plus l'enfant bouge, plus son cerveau se développe, parce qu'en fait c'est une espèce d'envoi et réception d'informations, de commandes du cerveau qui dit lever le pied, etc. Et même l'utilisation de ses mains opposées, les pieds opposés, enfin droite-gauche. Donc en fait, plus il danse, plus il bouge, plus son cerveau va éclore.
Si on s'intéresse là à tous les parents qui nous écoutent et qui souhaitent initier leurs enfants à la musique dès le plus jeune âge et qui n'ont pas l'opportunité de mettre leur enfant dans une école comme la tienne, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire?
En fait, c'était un peu l'une des raisons d'être de mon livre. C'est que je voulais que les parents puissent décomplexer par rapport à leur absence, leur soi-disant absence de formation musicale. Surtout en France, parce que je pense que dans les entretiens avec les parents que je mène dans le cadre de l'école, j'ai l'impression que c'est 99% des gens qui disent j'étais nulle en solfège, donc j'ai tout arrêté. Et moi, ça me brise le cœur, parce qu'il faut mettre ça en perspective. Il y a beaucoup de civilisations avec des pratiques musicales extraordinaires, comme l'Inde. Et il n'y a zéro écriture. En Afrique, c'est dans certains pays africains, c'est pareil. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que la musique classique est devenue l'icône, enfin le label pour tout apprentissage musical. Et le problème, c'est que la musique classique, et paradoxalement, n'est plus une tradition orale. Or, la musique est une tradition orale. Donc, à partir du moment où on a séparé, où en fait on démarre la musique avec une partition, c'est exactement la même chose que si on demande à l'enfant d'apprendre à lire quand il ne sait pas encore parler. Donc, c'est sérieux ce que je dis parce que je me suis rendu compte il y a très récemment que moi j'ai une très bonne oreille, j'improvise, enfin je suis vraiment une musicienne que je considère une musicienne naturelle. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, je n'aurais pas réussi les cours de solfège en France parce que je n'ai pas un cerveau linéaire, je n'aurais pas compris. Ouais. Et donc ça me brise le cœur l'idée que tous ces gens qui pensent que non seulement ils ont échoué à la musique, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire de la musique avec leurs enfants. Donc le livre donne plein de petites recettes qu'on peut faire avec un xylophone ou même avec des casseroles et des bâtons en bois. Le plus important pour les parents, c'est que si vous avez une chanson que vous aimez et vous l'incarnez, vous le dansez, vous le tapez sur les tambours avec les casseroles avec les cuillères, votre enfant va adorer. Et donc, vous serez déjà en train de se synchroniser avec lui rythmiquement. Ouais. Il va commencer à copier la mélodie. Et lui, il n'y a pas de jugement. Il ne va pas dire « Oh, c'est terrible, maman, je chante faux. » Et il sera, même si vous avez l'impression que vous chantez faux, que vous n'avez pas de sens rythmique, de toute façon, il a envie de bouger et chanter avec vous.
C'est vrai. Est-ce que tu conseilles de partager des styles musicaux en particulier pour l'éveil musical des enfants ou simplement de lui proposer ce qu'on aime ?
Les deux, mais il y a une chose à comprendre par rapport à la musique classique. Dans la musique classique, les mélodies ne se répètent pas beaucoup et souvent il y a une pulsation qui est diffuse. Donc on a Debussy... Bonjour pour la pulsation. Donc, les enfants ont besoin de pulsation pour agir. Et si vous regardez la forme de toutes les chansons pour enfants, il y a souvent le ABA. Donc, les phrases sont répétées et c'est de l'ancrage pour l'enfant. Donc, pour moi, la musique classique, si c'est très rythmé, oui. Mais les enfants agissent davantage à une pulsation plus évidente.
Et qu'est-ce que tu penses de la tradition des comptines ?
Les comptines sont absolument nécessaires, en fait. Et je ne sais pas à quel point les parents aujourd'hui en chantent. Il y a une tradition anglo-saxonne qui est très ancienne, ce sont les nursery rhymes. Donc ce sont les textes dits, mais avec un rythme, comme Humpty Dumpty sat on a wall. Et c'est très bizarre, mais en français, en France, ça n'existe pas. On a les chansons. Mais toutes les chansons pour les enfants sont formidables parce que justement, il y a cette répétition. Et l'enfant commence à pouvoir anticiper ce qui va venir par la suite. Et donc, ça veut dire qu'il est, il est rassuré et il commence à savoir qu'il a la capacité de savoir ce qui va venir juste après tel ou tel mot. Donc en fait, on met en place plein de circuits qui concernent le langage. Donc, tout le temps, enfin si, vous chantez les enfants tout le temps, toutes les comptines sont bonnes.
Est-ce que tu conseilles aux parents qui nous écoutent d'inscrire leurs enfants à l'apprentissage d'un instrument de musique, même si ça ne vient pas nécessairement d'une demande de l'enfant ?
Oui. Parce que les bienfaits sont tellement nombreux, mais il y a une autre raison aussi, c'est que ce qui est intéressant avec une pratique instrumentale, c'est que personne ne peut le faire à la place de l'enfant. En fait, l'enfant doit être engagé physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ses oreilles, tout en train de fonctionner quand il apprend un instrument. Et il y a une maîtrise par rapport au temps, le rythme, etc. Et l'enfant ne peut pas le faire en étant distrait. Et l'attention, aujourd'hui, au XXIe siècle, l'attention, la capacité d'être attentif, est un peu en danger pour les adultes comme pour les enfants. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, s'il y a la possibilité, oui, c'est que l'enfant pratique un instrument, mais il faut garder l'aspect social. Le problème, c'est que si l'enfant prend un cours de piano seul à la maison, il va perdre goût rapidement. Il faut garder en tête qu'avant 8 ans, et même après, il faut que la musique soit insérée dans quelque chose de social, soit un choral, soit les mini cours d'orchestre, ou juste même un cours de formation musicale, mais bien fait, dans lequel l'enfant chante et danse. Parce que la musique est sociale, et si on l'isole, il y a de fortes chances que l'enfant perde le goût.
Ouais, c'est ça.
La capacité de travailler seul viendra plus tard, après 12 ans.
Parce que j'ai l'impression que souvent ce qui se passe quand on inscrit un enfant à un cours de musique, c'est qu'avec le temps, il a envie de se désengager et d'arrêter.
Pas tous, mais je pense qu'il faut être extrêmement regardant sur l'enseignant. Parce que si l'enfant n'est pas un peu fasciné,
ouais.
S'il ne prend pas plaisir à voir son enseignant, ça ne va pas marcher.
Mm-hmm.
Donc, il y a aussi parfois un problème, c'est que des musiciens ne sont pas forcément très formés pour la tranche d'âge de moins de 6 ans,
ouais.
En termes de développement. Donc, là, beaucoup de musiciens sont à l'aise avec les cours à partir du moment où l'enfant sait déjà lire et écrire. C'est dommage parce qu'en fait, on peut mettre tant de choses en place avant.
Bien sûr.
Mais je pense que si le choix de l'instrument est celui de l'enfant, s'il aime son professeur, et s'il y a le troisième ingrédient, donc s'il y a un moment de partage dans sa semaine où il fait de la musique avec d'autres personnes, là, il y a très peu de désistement.
Ouais. D'accord. Ça me donne envie que tu nous racontes un petit peu plus ton histoire avec la flûte. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'est venu très jeune et tu as toujours su que tu voulais faire ça? Ou ça s'est développé avec le temps et tu as gardé la passion jusqu'à aujourd'hui?
En fait, j'ai commencé avec le piano. Mais ça, c'est un bon exemple pour les parents. Il y avait un piano chez nous. Parce que ma mère pensait que toutes les maisons devaient avoir un piano. Je pas la moindre idée qu'est-ce que c'était ce piano. À mon avis, ce n'était pas extraordinaire. Mais j'ai demandé les cours du piano quand j'étais petite. Et donc, on allait une fois par semaine chez la dame qui habitait de l'autre côté de la rue, en Californie. Et les cours étaient très mignons. Mais bizarrement, elle commençait également avec la lecture. Mais quand j'étais à la maison, en fait, moi, je m'amusais à chercher des mélodies. Donc, j'étais en train d'entrer moi-même un peu dans l'improvisation. Donc, je préparais mes morceaux, mais ça m'intéressait beaucoup plus. Et quand j'étais adolescent, j'écoutais les morceaux à la radio, les morceaux de musique à la radio. Et je cherchais jusqu'à ce que je trouve toute la mélodie, l'harmonie, etc. Et donc, c'était une très belle expérience parce que du coup, en fait... on développe une compréhension structurelle et harmonique de la musique par l'improvisation. Mais donc, effectivement, à 8 ans, je crois que j'ai vu jouer un orchestre pour la première fois, et je me suis dit, mais je veux jouer dans un orchestre. Et donc, il fallait choisir un instrument, et j'ai choisi la flûte traversière, simplement parce que je trouvais qu'elle était tellement jolie.
Ouais. Ah, c'est magnifique.
Et donc, d'ailleurs, en fait, je suis venue en France par la faute de la flûte traversière, parce qu'en fait, j'avais participé dans un masterclass à New York avec Jean-Pierre Rampal, le célèbre flûtiste français. Et j'avais 20 ans et j'étais au milieu de mes études à Juilliard. Et il m'a pris à côté après. Il m'a dit, vous êtes une musicienne extraordinaire, mais vous ne savez pas jouer de la flûte. Wow, c'est un peu dur. Mais en fait, il a dit, il faut absolument venir en France. Mais une fois que j'étais en France, j'ai travaillé avec, surtout avec un de ses disciples, Alain Marion. Et j'ai compris, en fait, il y a une tradition française technique de la flûte traversière. C'est comme la très grande cuisine. Mmh. Ça fait des siècles que ça existe. Et ça marche. Mmh. C'est vraiment... je devais retourner faire un concert à Washington au bout de 6 mois ici, et tous mes amis américains ont dit c'est le jour et la nuit.
Ouais.
en 6 mois, j'avais tellement avancé parce que j'étais bêtement acharnée à la technique. Mais ce qui, rétrospectivement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, si on n'est que dans la technique...
Bah oui, faut le juste milieu.
Oui, oui.
Toi qui connais bien maintenant le système scolaire français, qu'est-ce que tu reproches aujourd'hui à notre société sur les méthodes d'enseignement à l'école de la musique?
C'est le parent pauvre. C'est drôle parce qu'en fait, avec tout ce qu'on sait grâce aux neurosciences, c'est un peu une hérésie. Et d'autant plus que les problèmes d'attention dont j'ai parlé tout à l'heure sont en recrudescence et il va falloir faire quelque chose. Et les enfants doivent, on sait tous que le 21e siècle est né sous le signe du changement, changement exponentiel. Et donc, moi, ça me désole que dans les écoles, on continue grosso modo avec un système quasi 19e siècle. La créativité, c'est ce qui va nous distinguer de l'intelligence artificielle, la capacité de travailler ensemble, la capacité de se sentir. Et quand on regarde l'ensemble des bienfaits qui sont constatés par rapport à la musique, il me semble évident qu'il faut remettre ça dans les écoles le plus rapidement possible. Et il y a les petits efforts. Jean-Michel Blanquer avait annoncé qu'il fallait mettre la musique dans les écoles. Mais j'ai échangé avec les directeurs d'école et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de formation proposée. Et j'ai envie de dire que souvent, quand on parle de changement à l'école en France, on commence dans le primaire. Et en fait, c'est en maternelle qu'il faut intervenir pour les mêmes raisons. On sait que si un enfant ne parle pas de manière totalement fluide en termes de vocabulaire et syntaxe, à l'âge de 6 ans, il aura un handicap toute sa vie.
Oui.
Donc, ça veut dire que, comme le célèbre livre, tout se joue avant 6 ans, heureusement, il y a du...
Oui.
Il y a des marges. Ouais. Personne n'est condamné s'ils n'ont pas fait quelque chose avant 6 ans. Mais disons que mettons les chances de notre côté. Si on veut vraiment aider les enfants dans toutes ces acquisitions nécessaires, la capacité de se sentir en appartenance. Les enfants qui chantent ensemble, c'est fou, ils s'embrassent après.
Enfin, ouais,
Et on a remarqué que... On a les enfants qui viennent de partout dans le monde et parfois, il y en a qui arrivent qui ne parlent ni l'anglais ni le français. Mais ils chantent dans les deux langues avant de pouvoir parler les langues et on les voit physiquement en harmonie, vraiment à l'aise avec leurs petits collègues par la musique. Ils se sentent qu'ils font partie de la classe. Et je pense que... On parle de différents problèmes d'intégration, etc. Si vous voulez que les gens puissent bien fonctionner ensemble, mettez-les en musique, qu'ils soient enfants ou adultes, et ça marche.
Tu aurais des exemples de pays où tu trouves que la manière d'enseigner la musique est particulièrement inspirante à l'école?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle tout le temps du Finlande, comme étant l'endroit le top du monde pour l'éducation. Et peu de gens savent que tous les enseignants finlandais sont obligés, premièrement, d'aller à l'étranger, passer une année dans un autre pays pour voir ce qui se passe. Et ils sont aussi obligés de jouer d'un instrument suffisamment bien pour... avoir une activité musicale avec les enfants. Et la musique commence dans tout ce qui est préscolaire. C'est obligatoire jusque dans le sixième, au sixième. Et ensuite, les enfants, la majeure partie du temps, restent dans leur groupe, que ce soit un groupe de rock ou un petit orchestre. Donc, ça continue. Donc, pour moi, cette intégration très naturelle, nous, on ne cherche pas à faire les concertistes, loin de là. On veut que la pratique musicale soit enrichissante sur tous les niveaux. On sait que c'est le cas. On veut que l'enfant prenne du plaisir à faire de la musique avec ses camarades, parce que ça restera toute la vie.
J'aimerais maintenant qu'on un peu re-résume tout ce que tu as dit et que tu nous redises, selon toi, qu'est-ce qui est bénéfique à faire de la musique dès le plus jeune âge, donc que ce soit pour les bébés, pour les jeunes enfants ou pour les ados. Pourquoi est-ce que la musique est si importante dans la vie de nos enfants ?
Dans l'ordre, je dirais ce sentiment d'appartenance. Et avec le plus jeune bébé, c'est une communication avec sa mère ou son père, ou la personne qui s'occupe de lui. Les liens qui sont créés, parce qu'il s'agit de vibrations et de mouvements internes partagés. Plus tard, c'est l'appartenance à un groupe de jeunes enfants. Et plus tard, c'est l'appartenance à une société. Donc, dans l'ordre, l'appartenance. En second lieu, je dirais l'attention, la capacité de pouvoir focus sur quelque chose de précis et qui demande qui exige le rythme. Par exemple, si on doit jouer avec quelqu'un d'autre, si on a une nanoseconde de différence, soit tout le groupe s'ajuste, qui est assez magique, soit la personne va devoir rattraper. Donc, ça demande une attention, mais viscérale et extrême. Et je pense qu'il va falloir que nos enfants puissent se concentrer à l'avenir. Et on sait en plus que cette capacité de concentration est davantage déterminante que le QI, en fait, dans la vie d'un enfant. Et troisièmement, très important aussi, ce sont les liens entre langage et musique, les circuits. L'enfant, le bébé qui pratique de la musique, est en train de comprendre et sentir les rythmes. Je ne sais pas s'ils ont fait ça quand ton fils était en cours, mais I am the Lion King, listen, listen to me roar. Ils ont fait ti 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 ta ta ronde. Et donc, on attribue un rythme, on indique le rythme de la phrase qui était dite. Et donc, à l'intérieur de cela, ça veut dire que l'enfant peut distinguer les mots dans une phrase et les syllabes à l'intérieur des mots. Et l'absence de cette perception à 6 mois d'un bébé détermine son niveau d'alphabétisation après. C'est fascinant les liens, notamment entre rythme et capacité langagière et même plus tard, c'est lié aussi à l'écriture, parce que l'enfant qui n'entend pas les syllabes dans un mot aura beaucoup du mal à apprendre à l'écrire.
Certains. Alors j'ai une petite question rituelle maintenant dans le podcast. Tu le sais, il s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ?
J'espère qu'ils ne seront plus attachés aux écrans. J'espère qu'ils passeront du temps ensemble dans l'entraide, dans l'apprentissage, dans les activités qui font du bien à la planète. Que l'une des choses que j'aime dire par rapport à la musique, c'est que c'est ce qui est le plus écologique au monde. On n'a même pas besoin d'électricité parce que nous sommes un orchestre, on peut faire des rythmes et des mélodies en même temps. La pratique musicale ensemble, en absence totale d'instruments, est possible aussi. Donc je pense que j'aimerais que cette pratique musicale vienne en aide d'une société qui actuellement souffre beaucoup de solitude et d'éloignement des communautés.
Ouais. Ah, j'ai une dernière petite demande quand même pour toi. On est à côté d'un piano, donc je vais te demander si tu veux bien de nous jouer quelque chose pour conclure cet épisode de podcast, si ça ne te dérange pas.
Ah, ok, alors on donne un prénom musical à chaque enfant. Et donc le nom du podcast, c'est Les adultes de demain.
Ouais.
Ok, donc je vais essayer. Les adultes. Les adultes de demain. Les adultes. Les adultes de demain.
C'est parfait. Merci infiniment, Joanne, pour ton temps. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso.
N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.